RCF. Je suis Martin Pinguet. Je m'appelle Martin Pinguet, je suis journaliste, reporter, présentateur à RCF Hauts-de-France.
Oui, je reçois aujourd'hui dans notre émission Le Tour de la Question, un invité pas comme les autres. Pour vous, auditeurs, il est une voix quotidienne sur RCF Hauts-de-France. Alors nous allons mieux faire connaissance avec Martin Pinguet, journaliste.
Pinguet.
Et oui, puis c'est ce qui est écrit sur mon papier. Jeune journaliste qui a intégré l'équipe RCF en octobre 2021. Et on va voir qui est-il, qui est cette personne derrière cette voix. Merci de vous être prêté au jeu de nos échanges, Martin.
Mais de rien.
Alors, vous allez vous laisser conduire par des questions que vous allez piocher dans cette boîte à questions devant vous. Alors, elles sont parfois décalées, insolites, voire peut-être inattendues, mais je vous rassure, tout va bien se passer et vous n'aurez pas besoin d'utiliser un joker comme c'était votre souhait.
Non, mais je ne sais pas si j'en aurais besoin, effectivement, mais voilà, ça m'intrigue et je n'irai pas jusqu'à dire que d'habitude, c'est moi qui pose les questions.
Ah oui, eh bien oui, on renverse
souvent,
les rôles.
C'est plutôt ça.
Alors, Martin, vous avez 24 ans, vous êtes originaire de la région du Nord. Après une licence de sciences politiques à Lille, vous montez sur Paris pour un master.
Alors on descend. Alors moi j'aime bien dire que je suis descendu à Paris.
Vous êtes descendu à Paris. Bon, monter, ça va être dans un autre sens. Hein. C'était pour un master, donc on monte.
C'est ça.
On descend pas pour un master.
Non. Hein.
Au passage, vous avez été lauréat du prix Louise Weiss. Alors c'est un prix de journalisme européen créé et décerné par des journalistes professionnels francophones.
Oui, c'est ça. Donc on était.
Bravo.
Ben merci. On était
Bravo.
Une petite équipe. J'ai fait ça avec plusieurs de mes camarades de promo. Donc pour les citer, Yanis, Juliette, Tiffen, Martin, un deuxième, voilà. et Marie.
Voilà, s'ils nous écoutent, ils ont le bonjour de Martin. Alors, vous succédez les stages en presse écrite, tels que La Voix du Nord, bien connue, puis c'est la radio que vous découvrez, et toujours à travers des stages, Europe 1, France Bleu Champagne et Radio Campus Lille. Et vous voilà maintenant,
alors,
journaliste en titre sur RCF Hauts-de-France.
Petite précision, Patrice. Chez Radio Campus, je n'étais pas en stage. C'était vraiment, on m'avait confié une émission, donc j'assurais l'animation d'une émission musicale tous les lundis.
Très bien, très bien. Merci pour cette précision. Et là, on voit que vous êtes attentif à la véracité de l'information, à la rigueur en tout cas de l'information. Donc vous êtes apprécié au sein de notre radio RCF Hauts-de-France. Hein. Vous êtes apprécié pour votre voix qui inspire confiance, et déjà très professionnel alors que c'est votre premier, ou quasiment votre premier job. Et vous avez cette marque de fabrique des bons journalistes, curieux et cultivés. Alors j'ai envie de vous demander, Martin, qu'avez-vous découvert de plus délicat, de plus subtil dans l'exercice de ce beau métier de journaliste ?
Ici chez
RCF. À la radio. Oui.
Ou à la radio en général.
À la radio en général.
Ben, la radio en général, c'est justement le choix des mots qui est très très important. Et moi, c'est ce qui me challenge un petit peu tous les jours au quotidien dans les journaux, dans le journal de 18h30, donc du lundi au jeudi, hein, jamais nos auditeurs qui ne seraient pas branchés à cette heure-là. Et voilà, le choix des mots, le choix de trouver le mot juste qui va vraiment donner l'information la plus précise possible et la plus directe, parce qu'en radio, on est pris par le temps, on ne peut pas donner trop d'informations en même temps, il faut bien les hiérarchiser, bien les ordonner.
C'est si compliqué que ça, de trouver le bon mot?
Alors c'est un travail quotidien de trouver le bon mot, le bon verbe. Souvent c'est le verbe qui pose problème parce qu'on a tendance à mettre des être ou des avoir un petit peu partout quand on parle comme ça entre nous. L'idée c'est d'essayer d'avoir le verbe le plus précis possible qui décrit le mieux possible l'action qu'on essaye de présenter à l'auditeur.
Vous me faites penser à Flaubert, c'est peut-être du coup votre saint patron, vous savez Flaubert qui réécrivait, raturait sans arrêt pour trouver le bon mot.
Alors je ne sais pas si je réécris et rature autant que lui, mais voilà, mes collègues pourront confirmer que quand j'écris mon journal, ça m'arrive régulièrement de parler à voix haute, pour essayer
vous entendre.
De trouver, pour m'entendre, savoir comment la phrase sonne et si elle est assez percutante.
Oui, c'est intéressant. Oui. Vous nous amenez dans les coulisses. Hein. Alors, quel a été le reportage que vous avez réalisé et qui vous a le plus bousculé?
Alors, le reportage que j'ai réalisé qui m'a le plus bousculé... Alors, bousculé, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais un qui m'a particulièrement marqué là ces derniers mois, c'est lorsque je suis allé à Calais le 25 novembre donc 2021, donc le lendemain du naufrage qui a coûté la vie à 27 migrants. Et je suis allé rencontrer les associatifs, toutes les associations humanitaires qui viennent en aide aux exilés. Et quand je suis arrivé dans ce grand hangar où ils préparent à manger, où ils stockent tout leur matériel, il y avait un sentiment d'abattement, comme si tout ce qu'ils faisaient ne servait à rien, tout ce qu'ils faisaient était vain. Et pourtant, ils essayaient de s'entraider, de se sourire tant bien que mal, de repartir de l'avant après ce drame. Et c'était quand même quelque chose un moment assez particulier, une ambiance vraiment particulière et que j'ai pas retrouvé ailleurs. Et après, sinon, sur un ton peut-être un peu plus léger. Un reportage que j'ai beaucoup aimé également, c'était à France Bleu quand j'ai travaillé à Reims, et une petite visite des vignes en compagnie de néo-vignerons
qui ont découvert
un petit peu la difficulté du métier de vendangeur et qui était assez sympathique à faire. Et puis les gens étaient très gentils, donc ça c'est ça que j'aime bien aussi dans le métier, c'est aller sur place, rencontrer les gens, et puis souvent les gens sont les gens sont gentils en général, hein. Voilà. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, donc c'est un plaisir de discuter avec eux, de les rencontrer.
Vous êtes peut-être ce Jean-Pierre Pernaut en herbe.
Jean-Pierre Pernaut, non, quand même pas. J'aime bien.
En tout cas, vous aimez aller à la rencontre.
J'aime bien aller à la rencontre des gens.
En proximité.
En proximité, voilà. Le journalisme de proximité. Après, le journalisme de proximité, ça ne veut pas forcément dire uniquement de la proximité à la campagne, comme le faisait beaucoup Jean-Pierre Pernaut. Hein. Il mettait un point d'orgue vraiment à traiter tous les territoires ruraux. Nous, ici, chez RCF, on a aussi quand même un gros pôle urbain qui est la métropole lilloise. Et donc, c'est aussi important d'aller dans des endroits de la métropole où il y a peut-être un peu moins de couverture médiatique. En tout cas, on essaye de le faire.
Allons voir ce qu'il y a, qui vous êtes derrière votre étiquette de journaliste. Et pour ça, il y a une boîte à questions là qui vous tend les bras, si je peux parler ainsi.
Effectivement, il y en a quelques-unes. Alors, hop, première question. Alors, vous constituez votre propre musée Grévin. Quels sont les deux personnages que vous mettez en avant ? Les personnages que je mets en avant, alors ça serait principalement des musiciens, parce que j'aime beaucoup la musique. Mais alors après, par contre, lesquels mettre en avant, là c'est une autre paire de manches.
Choisir
c'est renoncer. Je dirais premièrement un musicien qui m'a beaucoup impressionné, marqué, et dont j'aime à peu près tout ce qu'il fait, ça serait Joe Strummer, le chanteur et guitariste du groupe anglais The Clash, qui pour moi est quand même la quintessence de la rockstar engagée, et qui n'hésitait pas à, dans son travail, dans sa musique, à faire passer ses idées. Après, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est une autre histoire, mais la manière dont il le faisait, la défense aussi des gens qui étaient peut-être un peu moins bien lotis que d'autres, et son ouverture musicale aussi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, où il prend le temps de s'intéresser à plein de musiques, de plein d'horizons différents. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est ce que j'essaye de faire moi dans ce que j'écoute, essayer d'écouter un petit peu de tout et de partout.
Eh bien justement, pourquoi pas se donner un temps là d'écoute. Alors vous avez choisi un morceau
Oui.
Qui est...
Alors, le morceau, c'est You Can't Judge a Book by the Cover, qui est un morceau qui a été écrit à la base par le bluesman Willie Dixon pour Bo Diddley, mais là, c'est pas la version de Bo Diddley, c'est une reprise du groupe irlandais The Stripes.
Ok, on se lance dans cette écoute.
Le tour de la question, Patrice Rouher.
Eh bien, nous poursuivons nos échanges avec Martin Pinguet, et je ne me trompe pas.
C'est ça.
Voilà, c'est bien ça. Vous êtes jeune journaliste au sein de l'équipe RCF Hauts-de-France et depuis le mois d'octobre dernier. Voilà, et on a le plaisir de vous écouter, d'entendre votre voix quotidiennement. Alors, je vais vous proposer de revenir vers la boîte à questions.
Et d'en piocher une deuxième.
Et d'en piocher une deuxième, parce que c'est très intéressant de vous découvrir comme ça.
Quel a été le déclic ou le clic qui vous a conduit à ce que vous êtes devenu dans votre engagement ou votre vie professionnelle? Bah, du coup, ça concerne plutôt ma vie professionnelle, je crois.
Oui.
Alors, le déclic... Alors, le déclic pour le journalisme, ça a été ma participation au journal du lycée, au Sacré-Cœur à Tourcoing.
Ah!
Le journal du No Comment, donc qui est un journal lycéen qui est peut-être le plus vieux journal lycéen de France. Et donc j'y ai participé dès mon arrivée au lycée et ça a un peu forgé mon amour pour l'écrit et pour raconter quelque chose en fait, pas forcément des choses très sérieuses puisque journal lycéen oblige, il y avait quand même un petit côté décalé, humoristique, satirique aussi beaucoup. Donc j'en ai profité donc là-dessus et après pour le déclic radio, c'était mon passage à Radio Campus justement il y a quelques années pendant mes études où j'ai eu la chance de participer à la construction des matinales de la radio dans le cadre de ma prépa pour les écoles de journalisme et puis derrière mon émission Rock'n'Roll High School Feu Rock'n'Roll High School qui n'existe plus malheureusement mais voilà, j'ai pris un petit peu le virus du micro.
Comme quoi les activités extrascolaires peuvent être très influentes.
Exactement. C'est dans le cadre scolaire, mais ce n'est pas directement.
C'était l'étincelle.
C'est ça.
Hein, puis qui a ressurgi quelques années plus tard.
Moi, j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire. J'avais déjà un peu envie de devenir journaliste. Ça m'a conforté un peu dans ce choix.
Allez, encore une autre question.
Allez, continuons. Hop. Alors, quel objet vous aimeriez collectionner si ce n'est déjà fait? Je collectionne déjà des disques, Patrice, en fait. Donc, c'est déjà fait. J'ai déjà entamé ma petite collection de disques.
Donc, j'imagine que c'est l'objet qui vous est cher, c'est le disque.
Oui, exactement. C'est l'objet qui m'est cher et la transition est trouvée puisque j'en ai ramené un avec moi. Donc, c'est un disque de l'album Snapshot de The Stripes, le groupe irlandais qu'on a écouté il y a quelques minutes. Et c'est le premier disque que j'ai acheté de ma poche avec mon petit argent quand j'étais encore jeune lycéen. J'avais même pas encore de platine vinyle à ce moment-là. J'en ai piqué une à ma grand-mère pour pouvoir l'écouter. Et plus que ce premier vinyle, c'est aussi The Stripes. C'est aussi le premier groupe que je suis allé voir en concert avec des copains au Grand Mix à Tourcoing. C'est la première sortie comme des grands,
ça
on
marque.
Va dire.
Donc
bons souvenirs.
C'est dans le registre des premières fois.
C'est ça. On est complètement dans le registre des premières fois. Voilà, premier concert, premier disque.
Première gorgée de bière aussi.
Non, ça c'était déjà fait.
Mais c'est là la référence au livre.
Oui,
c'est le livre
c'est
que je pense.
Mais voilà, la première gorgée de bière, elle avait une saveur particulière dans la salle du coup. Ouais. On est tout seul.
Ouais. Voilà.
Il n'y a pas besoin d'autorisation parentale.
Allez, une autre question pour
alors, celle-ci on va dire. Alors, vous vous réincarnez à une autre époque, ce serait laquelle?
Ah, intéressant.
Je me réincarnerai. Ah, et du coup, il faut que ça soit une époque passée.
Plutôt que future, oui.
Oui, ouais, mais après, le futur m'intrigue plus que le passé, pour le coup. Mais une autre époque, disons les années 60 pour tout ce qu'elles ont de bouillonnement culturel, politique, artistique. Voilà, moi ça m'intrigue cette période de savoir comment ont vécu mes grands-parents quand ils avaient mon âge. C'est aussi ça qui m'intrigue. Je leur ai déjà plusieurs fois posé la question, discuté de ça avec eux. Et c'est toujours des discussions qui m'intéressent, qui m'intriguent de savoir un petit peu comment est-ce qu'ils réagissaient face à telle ou telle chose, par exemple comment ils ont réagi face aux événements de mai 68 parce qu'ils sont un peu de cette génération là. Comment ils réagissaient à la menace nucléaire russe, à la guerre froide, quel impact ça avait dans leur quotidien. Donc voilà, c'est un ensemble de questions que je leur ai posées, mais que j'aimerais bien savoir un petit peu aussi ce que ça fait de vivre à ce moment là
ce qui est intéressant, c'est que c'est une période qui vous permet de mieux comprendre vos ascendants.
Un petit peu aussi, mais c'est pas tant pour comprendre d'où je viens, c'est plus de comprendre, c'est cette curiosité de comprendre comment c'était.
Oui,
voilà, comment est-ce que c'était vraiment, et puis savoir aussi quelle était un petit peu l'ambiance générale au sein de la société, parce que toujours, souvent on dit, ah oui, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà comme il y a 30, 40, 50 ans, est-ce que c'était vraiment comme ça? Est-ce qu'on peut vraiment faire des parallèles entre aujourd'hui et hier? C'est aussi une des questions que je me pose.
On peut se poser la question, est-ce que l'histoire se répète?
C'est ça.
Et là, aujourd'hui, malheureusement, on le voit.
Moi, je serais peut-être un petit peu plus nuancé, mais.
Alors, vous êtes une personne qui est très cultivée, vous le témoignez, au travers de
merci,
cette.
Merci, c'est pas. C'est gentil.
Avec cette curiosité que vous avez des années 60. Et dans ce même mouvement, j'ai envie de vous demander, mais quel est ce livre qui vous a fortement marqué, qui a pu peut-être avoir un impact sur vous assez décisif, éclairant ou
C'est un livre qui a eu un impact plutôt indirect, dans le sens où il a pas impacté mon travail, il a pas impacté mon quotidien, et c'est même plus qu'un livre, c'est une œuvre globale. C'est l'œuvre de J.R.R. Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui m'a fasciné par la profondeur en fait de l'univers qu'il a réussi à créer et la manière qu'il a de raconter des histoires où tout est expliqué en fait. Tout a une place, tout a une raison, et cette démarche qu'il a de vouloir tout un petit pas forcément rationalisé, mais que tout ait un sens, tout soit imbriqué et qu'il y ait des connexions en fait entre tous les différents écrits qu'il a pu faire pour recréer vraiment une mythologie. Quelque part, c'est aussi un petit peu ce qu'il a voulu faire, redonner une mythologie à l'Angleterre qui n'en avait pas, ou très peu, hein, elle est affiliée à aucune mythologie en particulier, que ça soit, elle est un petit peu influencée par la mythologie nordique, par la mythologie germaine, par la mythologie latine. Et bien en fait, c'est tout ça qu'on retrouve un petit peu, et moi qui suis aussi féru d'histoire, donc forcément, j'ai eu un petit peu tout ce regroupement de toutes ces influences au sein de cette œuvre, et ouais, c'est vraiment la construction d'un univers à part entière et qui est complètement imaginé, bon, avec des inspirations réelles ou d'autres mythes. Mais voilà, moi, c'est ce côté recréer un monde à part entière avec ses propres règles, sa propre géographie, sa propre histoire. Ça m'a fasciné et c'est ce que j'aime beaucoup.
Et qui tient debout.
Et ça tient debout, ouais. Voilà. Tout n'est pas bancal, tout est pensé, réfléchi pour que ça ait un sens, pour que ça se justifie. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc dans ce que je lis, j'aime bien lire de la fantasy justement pour ça et pour ce côté s'évader. Parce que bon, quand on est un peu dans l'actu tous les jours, c'est un peu parfois difficile de s'évader, de penser à autre chose, parce que même si ça m'intéresse et j'adore suivre l'actualité, mais avoir cette possibilité dans une lecture de penser à complètement autre chose, d'être dans un monde qui a des enjeux complètement différents, même si c'est sur le fond des enjeux qui se rejoignent avec les nôtres, hein, c'est des histoires de puissance, de force, de religion, de pouvoir, et ben c'est pas exactement notre monde, c'est d'autres termes, c'est d'autres personnages, donc ça permet de oublier un petit peu le quotidien.
Au fond, Le Seigneur des Anneaux, vous dites, c'est un chef-d'œuvre.
Un chef-d'œuvre, bon, moi c'est mon avis,
en tout cas, c'est votre avis.
Voilà, ouais. Mais oui, moi je considère que c'est un chef-d'œuvre. Après, je peux concevoir que les 200 premières pages du premier tome soient un peu indigestes pour qui n'aime pas trop les descriptions. Moi, je sais que j'ai conseillé ce livre à énormément de gens et il y a énormément de gens qui m'ont dit, ah non, mais le premier livre, c'est long, on se traîne, il y a trop de descriptions. Mais moi, c'est ce que j'aime bien, donc. Voilà. Et un petit peu dur un petit peu
donc
dur de rentrer dedans, mais
on entend les précautions et les avertissements
voilà.
Pour
ceux qui sont tentés de se plonger dans cette œuvre, faut tenir bon. Voilà, les 100-150 premières pages peuvent être un peu ardues, mais après, quand ça s'emballe un peu et qu'on comprend les enjeux véritables de l'histoire, là, ça devient
et
vraiment
après,
intéressant.
Ça fait rêver.
Et ça fait rêver, ouais. Ouais.
Alors, moi, à mon tour de me faire le porte-parole de nos auditeurs, puisqu'on est sur RCF. Hein. Et voilà, j'ai quelques questions. La première, la toute simple. Pour vous, qui est Dieu ?
Absolument aucune idée. Voilà. Voilà, aucune idée de savoir. Puis, pas spécialement ressenti l'envie de me poser cette question, de me dire cette grande question, un petit où il faut prendre de la hauteur, etc. J'ai pas trop le temps, on va dire, dans mon métier. On est un petit peu à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, et donc du coup j'avoue que je me suis jamais posé la question.
Oui, vous êtes dans le rythme de
c'est
la
ça.
Réalité.
On est dans le rythme de la réalité, dans le rythme de la radio, et donc du coup difficile de prendre de la hauteur, et puis grande question un peu de savoir
une question qui vous, on va dire, qui
me dépasse.
Vous dépasse,
voilà,
quelque part.
Ça, moi ça me dépasse, ouais, et je ne me la suis pas posée.
Alors aussi, vous savez que RCF, c'est la joie se partage, c'est notre slogan. Et quelle a été votre dernière grande joie ce mois écoulé ou cette semaine écoulée ou depuis le début de l'année?
Depuis le début de l'année, j'ai trouvé un appartement à Lille et je peux vous dire que c'est pas facile.
Ah oui.
De trouver un appartement à Lille qui soit dans un budget défini. Il y a pas forcément beaucoup d'offres, mais surtout beaucoup de demandes.
Et ça court. Ça court derrière.
Donc quand j'ai enfin trouvé mon appartement, j'étais plutôt content, effectivement. Et sinon, une petite joie un petit peu plus simple, c'est d'être allé faire mon marché ce matin sur la place du concert et puis de me dire bon voilà, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais me cuisiner cette semaine et voilà, moi c'est
vous
déjà
vous mettez en appétit.
C'est voilà, je me mets en appétit juste en me disant bon, j'aimerais bien cuisiner ça, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur les étals et puis après je me laisse porter
vous
par
êtes gourmet ou gourmand.
Les deux. Plus gourmand que gourmet.
On peut être les deux ?
On peut être les deux, mais je suis plus gourmand que gourmet, mais j'aime beaucoup cuisiner, ouais.
Et quel est votre plat préféré ?
Oh non, je saurais pas vous dire, Patrice. Bon. Déjà, vous m'avez demandé un musicien à mettre en statue de cire dans mon musée Grévin, mais alors pas, un plat, je ne pourrais pas.
Je vais pas vous mettre
je
en stress.
Ne pourrais pas choisir.
Vous pourriez pas choisir.
Ah non, j'aime bien qu'il y ait de la viande ou qu'il y en ait pas, qu'il y ait des légumes ou qu'il y en ait pas, qu'il y ait de la sauce, qu'il y ait de la tomate, qu'il y ait des pâtes, des pommes de terre, que ça soit
tout
gratiné, ouais, tout.
Est-ce
qu'il y a peut-être des choses que je n'aime pas du tout, mais ouais. Des choses que j'aime bien, il y en a énormément.
Est-ce que vous aimez faire la cuisine avec les restes?
Ah oui, ah, ça j'adore. Ah, les restes, ça c'est un très très ça c'est peut-être une de mes spécialités, c'est les pâtes au reste ou la quiche au reste. Ça marche toujours.
Ah oui.
Je recommande.
Ah oui. On suit votre conseil. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes, comme vous le dites, tous les jours sur le terrain dans cette réalité donc de tous les instants. Qu'est-ce qui vous fait espérer quand vous regardez l'avenir, Martin?
Qu'est-ce qui me fait espérer? Espérer quoi? On espère quelque chose, finalement.
Espérer, l'espérance.
Espérer, l'espérance, l'espoir. Je ne saurais pas vous dire. L'entraide entre les gens que je peux voir dans les reportages.
Ouais.
Voilà, ça fait... je ne sais pas si ça me fait espérer, mais en tout cas, ça fait du bien.
En tout cas, elle vous fait chaud au cœur.
Ça fait chaud au cœur.
Et vous dites c'est possible.
C'est possible, et aller rencontrer des gens qui viennent en aide aux autres, rencontrer des gens qui sont investis dans des causes ou même juste investis dans un projet personnel et voir que ça marche ou que ça a un impact et en parler à la radio derrière, c'est quelque chose de très valorisant, je trouve.
Et donc vous faites le relais de ces entraides.
On est un peu le relais, oui, quand on est journaliste, mais voilà, c'est un échange en fait entre une personne qui est engagée ou une personne qui est dans le besoin, et puis nous on est un peu là pour essayer de faire le lien parfois entre les deux, ou même juste d'expliquer ce qui se passe, et je trouve que c'est ça qui est intéressant et motivant dans le métier de journaliste.
Vous allez le positionner où, cette entraide, entre la fraternité ou la solidarité?
Les deux, hein. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de différence entre être solidaire ou fraternel. S'entraider les uns les autres.
C'est ça. Voilà. C'est aussi être fraternel. C'est la fraternité.
Peu importe.
C'est la solidarité.
La solidarité, ça s'applique à tout le monde et pour tout le monde. Tout le monde y a droit et tout le monde a droit de le faire.
Très bien. Martin Pinguet, merci beaucoup de vous être livré, puisqu'on vous connaît sous votre voix. On a mis un visage, on a mis de la chair sur qui vous êtes, et donc on sera d'autant plus attentif et curieux de vous écouter. Merci à vous.
Eh bien, merci de m'avoir invité.